au plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fiction imaginaire, enquête sur d'étranges affaires. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et si vous finissiez votre soirée par quelques histoires? Voici notre programme. Rencontre du troisième type, les enlevés de l'Alagash, quatre hommes abductés simultanément, de l'incroyable, de l'exceptionnel. Puis une nouvelle de Roald Dahl, Venin. Et nous débuterons notre émission par un peu de musique avec Take Five, un standard des années 60.
Won't you stop and take a little time out with me? Just take five. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five. Single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take five. Just take five. Just take five. Just take five.
Dans les grands classiques d'OVNI, je vais vous parler aujourd'hui des enlevés de l'Alagash, quatre hommes abductés simultanément. Le site d'Alagash, dans le Maine, aux États-Unis, est un endroit rêvé pour pratiquer la randonnée, le canoë, la pêche, la chasse et le camping sauvage. Enfin, un lieu tranquille. Ces bois et forêts à proximité de la frontière du Canada comportent tout un réseau sauvage et inhabité de lacs et de rivières qui serpentent à travers les montagnes dans un décor à couper le souffle. Or, cette belle région a été le théâtre de l'une des plus étranges rencontres du troisième type de l'histoire de l'ufologie. Il s'agit d'un cas d'enlèvement d'extraterrestres qui est toujours très discuté et qui figure parmi les mieux documentés. Cet incident implique plusieurs témoins, quatre pour être exact, les frères jumeaux Jack et Jim Weiner et leurs amis Chuck Rack et Charlie Frotz. Les vacances de ces campeurs à Alagash ont été mémorables, mais pas pour les raisons qu'ils avaient espérées. Nous vous invitons à découvrir aujourd'hui ce cas exceptionnel dans notre rubrique des grands classiques de l'ufologie. Voici les faits. La nuit du vendredi 20 août 1976, quatre jeunes étudiants qui se sont rencontrés pendant leurs études au Massachusetts College of Art quittent Boston. Les quatre amis, plutôt sportifs, s'apprêtent à passer un petit séjour en camping dans une zone sauvage du nord du Maine, le long de la rivière Allagash. Une expédition en canoë est au programme. Les vacances débutent donc par une descente en canoë à travers le lac Eagle. La traversée du lac se déroule sans encombre et ils finissent par débarquer sur une petite plage sauvage où ils décident de faire un feu de camp et de planter leur bivouac avant que la nuit ne tombe complètement. Ils vont camper ici plusieurs jours et ils se doivent d'être bien installés. L'énorme feu qu'ils confectionnent va leur permettre de repérer de loin leur campement, car chaque soir, ils s'éloignent du camp et partent pêcher. Au troisième jour, peu de temps après avoir mis le canoë à l'eau, Chuck a la sensation d'être observé, tandis que ses amis continuent de se préparer pour un nouveau départ sur le lac. Chuck les interpelle et leur demande de regarder derrière eux. Ils observent soudain une lumière beaucoup plus brillante qu'une étoile. Et là, s'élevant au-dessus des arbres, à peine à quelques centaines de mètres, ils observent un énorme objet ovale et luisant. Alors que leurs yeux s'adaptent peu à peu à l'intensité lumineuse, l'objet change de couleur et passe du rouge au vert, puis devient jaune blanchâtre. L'objet lumineux, d'environ 20 mètres de diamètre, est massif et immobile. Il se déplace très lentement entre les cimes des arbres le long de la rive, avec un mouvement gyroscopique, comme si des chemins d'énergie fluctuaient en son centre. Les changements de couleur sont imbriqués comme si l'objet entier avait un mouvement de rotation plasmatique. Le tout ressemble au tourbillon d'une sauce épaisse que l'on remue dans une casserole. Charlie attrape alors une lampe torche et la pointe en direction de cette masse lumineuse. Il commence alors à transmettre le message SOS avec sa lampe de poche. Immédiatement, l'objet avance silencieusement vers le canoë. Les quatre hommes commencent à mesurer l'ampleur de ce qu'ils sont en train de vivre. L'OVNI fait brusquement un arrêt et il commence à descendre vers le canoë. La curiosité des hommes se transforme alors en panique au moment où un rayon de lumière en forme de tube sort de l'objet et vient frapper la surface de l'eau. Pris de terreur, les quatre hommes commencent à pagayer aussi vite qu'ils le peuvent pour fuir ce rayon lumineux. À la surface de l'eau se reflète un anneau luisant avec un centre sombre. Bientôt, le rayon de lumière se déplace au-dessus du canoë. Inexorablement, il engloutit les hommes et toute l'embarcation. À partir de ce moment, les souvenirs conscients des quatre hommes varient légèrement. La seule chose dont ils se souviennent tous, c'est d'être revenus sur la rive après avoir pagayé frénétiquement. Charlie a toujours sa lampe de poche à la main. Jack tient fermement sa pagaie et aucun des quatre hommes ne parvient à détourner le regard de l'objet qui s'en va à la vitesse de l'éclair. De cet épisode, Jack et Jim, les deux jumeaux, sont ceux qui gardent le plus de souvenirs conscients. Jack se rappelle, je cite, « Il était juste derrière nous et je pouvais voir que nous n'arriverions jamais à distancer son rayon. Il avançait très vite et je me souviens avoir pensé « Il est là, il va nous engloutir, on ne va jamais s'en sortir. » La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est que nous étions sur la berge et nous regardions l'objet qui était maintenant à 15 ou 20 mètres au-dessus de l'eau. Un rayon sortait de sa base, comme si l'objet était assis dessus. Il était en vol stationnaire, juste devant nous, totalement silencieux, pendant ce qui me sembla être 4 ou 5 minutes. Puis soudain, le rayon pointa vers le ciel, l'objet commença à monter, s'éloignant de nous vers le sud-ouest, puis il fonça vers les étoiles en une fraction de seconde. Quant à Jim, il relate les détails suivants. Je me souviens être sur la berge du lac, regardant l'objet en face à nous. Nous étions tous en état de choc. Nous restions là, incapables de bouger ou de parler. Puis, lorsque l'étrange effet anesthésiant s'est dissipé, nous avons remarqué que l'énorme feu qui était encore en train de flamber quelques minutes plus tôt était pratiquement éteint. Lorsque nous étions partis pêcher, nous avions pourtant placé de très gros troncs capables de brûler pendant 2 ou 3 bonnes heures. Mais dans le temps de cette rencontre, cette fameuse rencontre, qui sembla durer au plus 15 à 20 minutes, le feu avait tout consumé jusqu'aux braises. À ce moment-là, aussi étrange que cela puisse paraître, après ce que nous venions de vivre, aucun d'entre nous n'a évoqué ce qui venait de se passer. Nous étions si fatigués que nous avons directement filé dans nos sacs de couchage pour nous endormir presque immédiatement. Le lendemain matin, les hommes se réveillent très choqués. Ils se demandent ce qui a bien pu arriver pendant ce temps manquant, durant lequel le feu s'est entièrement consumé pour ne laisser que des cendres fumantes. Il a dû s'écouler des heures. Ils n'ont cependant gardé aucun souvenir. Et ça, c'est un phénomène qui revient souvent dans les phénomènes OVNI. Ils n'ont gardé aucun souvenir. Le jour suivant, ils racontent leur expérience à un garde forestier qui apparemment ne les croit pas. Le reste du séjour se déroule sans incident. Et les années passent. Quelques années plus tard, finalement, l'incident va juste rester dans leur mémoire comme le souvenir confus d'une rencontre inexpliquée. Les 4 hommes retournent à leur vie quotidienne et à leur carrière respective. Pourtant, quelques années plus tard, le souvenir de cette expérience va commencer à avoir une influence importante sur leur vie. C'est Jim qui, le premier, en fera les frais. En effet, il souffre depuis l'enfance d'une blessure à la tête qui lui cause des épilepsies et d'importantes migraines. Durant le traitement qu'il suit, ses médecins lui demandent de signaler tout vécu inhabituel qui pourrait être symptomatique de son état. Jim décrit alors les événements étranges que lui et ses amis ont vécu dans l'Allagash. Il signale aussi aux médecins que depuis cet épisode, il se réveille souvent en pleine nuit et voit des créatures étranges qui se penchent au-dessus de lui. Il est paralysé et il sent que quelque chose est effectué sur ses organes génitaux. Les médecins de Jim lui conseillent alors de contacter un chercheur spécialisé dans ce type de symptômes, Raymond Fowler, qui donne justement des conférences dans la région de Boston. Jim en parle alors avec Jack Venner, qui lui aussi a le même type de cauchemar. Dans ses rêves, il voit des êtres avec de longs coups, de grosses têtes, qui examinent son torse et son bras, tandis que Jim, Chuck et Charlie sont assis sur un banc voisin, incapables d'intervenir. Les 2 autres hommes font également des rêves très similaires, avec des images mentales qui leur reviennent par flash de cette terrible nuit sur le lac. En 1988, Jim Wenner assiste à une conférence de Raymond Fowler et lui raconte son étrange rencontre. L'enquêteur est enthousiasmé par l'histoire de Jim, en particulier par le fait que c'est un événement à témoins multiples. Fowler invite les témoins à pratiquer des séances d'hypnose régressive. Et voilà l'enquête. En janvier 1989, David Webb, un enquêteur du MUFON, Anthony Constantino, hypnothérapeute, et l'ufologue Raymond Fowler initient une enquête qui va durer 2 ans. Ils vont se pencher sur les souvenirs de chaque témoin, révéler sous hypnose et recueillir les principaux éléments des récits pour les comparer. Il en ressort très rapidement qu'une période de temps manquant doit être intercalée entre l'observation de l'objet et le moment où les 4 hommes se sont retrouvés sur la berge sans le moindre souvenir. Le point de départ de ce « missing time » commence pour chacun d'entre eux au moment même où le rayon de lumière issu de l'OVNI vient toucher le canoë. S'ensuit des séances d'hypnose. Au cours de la quinzaine de séances d'hypnose effectuées par les 4 hommes, un récit assez précis va se dessiner autour de cet épisode de temps manquant. En voici le résumé. Les quatre hommes se retrouvent dans une pièce au mur translucide, mais opaque, où se trouve une sorte de table d'opération argentée. Ils disent avoir beaucoup de difficultés à se concentrer et se sentent comme hypnotisés. Ils sont assis sur un banc et regardent tour à tour leurs camarades passer sur la table d'opération. Tout autour d'eux s'affairent de petites créatures aux grands yeux noirs et profonds, qu'ils ont du mal à observer nettement. Ils ne peuvent pas détailler avec précision les détails de leur visage. Ils comparent cela à une station de radio floue qui n'arrive pas à synthétiser. C'est comme si les créatures humanoïdes exerçaient une sorte de contrôle mental sur eux. Tous sont amenés à se déshabiller et à s'asseoir sur un banc d'apparence plastique dans une zone éclairée par une lumière blanche diffuse. Puis, une fois placés sur la table, ils décrivent une sorte de sonde qui descend du plafond sur leur corps dénudé pour prélever des échantillons de peau et de tout leur liquide corporel. Un à un, les quatre hommes vont subir les supplices des instruments médicaux insérés dans leur corps tout en ayant l'impression qu'ils communiquent télépathiquement avec les entités qui tentent de les apaiser. Après les examens, les abductés sont invités à se rhabiller et à passer dans une autre salle à travers un portique rond. Puis ils se retrouvent en train de descendre en flottant le long d'un rayon de lumière jusque dans leur canoë qui est maintenant sur la berge. Quelques informations complémentaires. Lors de ces séances, les enquêteurs ont découvert, premièrement, que les jumeaux ont vécu de nombreuses visites de créatures extraterrestres dans leur chambre à coucher et ce depuis leur prime enfance. Deuxièmement, que Jack et sa femme Mary ont été enlevés une seconde fois durant la nuit du 20 mai 1988 à leur domicile qui se situe à Townshend, dans le Vermont. Jack a révélé sous hypnose qu'il avait été frappé par une lumière bleue qui est passée à travers la fenêtre de sa cuisine. Suite à cet événement, il aurait vécu un nouvel épisode de temps manquant avec sa femme, pendant lequel des extraterrestres avec de grands yeux sont venus près de leur lit pour les transporter instantanément dans un énorme objet luisant de la taille d'une maison, posé sur une lumière bleue enveloppant sa base. Après un examen similaire à celui vécu 12 ans plus tôt, Jack et sa femme furent ramenés dans leur lit dans un étrange état de léthargie. Troisièmement, l'enquête établit également que des militaires de l'USAF à Washington avaient constitué un important dossier médical sur Jack, dossier qu'ils refusèrent obstinément de communiquer aux enquêteurs. Comme c'est bizarre. Les 15 sessions d'hypnose sur une période de 14 mois, enregistrées et transcrites, de tous les témoins et les batteries de tests de profilage psychologique de chaque témoin, le rapport final comporte 10 volumes et totalisé plus de 700 pages, n'ont jamais mis en évidence de contradictions dans le fil du récit. Et ça, c'est très intéressant. Ces documents rendus accessibles aux ufologues devinrent la base d'un livre sur les enlèvements. Enfin, le cas fit l'objet de plusieurs documentaires télévisés. Alors, que faut-il en conclure? Nous sommes toujours dans les phénomènes étranges. L'enquête de Raymond Fowler a conclu à l'évidence que les témoins étaient sincères et qu'ils avaient relaté sous hypnose, malgré le caractère extraordinaire de ces récits, des choses tout à fait cohérente et toujours d'un commun accord. Les quatre étaient d'accord. À chaque fois, bien sûr, aucune théorie alternative ne permet d'expliquer ce qui s'est passé lors de ces enlèvements. On ne peut faire que des suppositions. Parfois, les personnalités des témoins sont portées à l'imagination et souffrent de souvenirs traumatiques. Mais dans tous ces cas, le scénario est quasi identique. C'est-à-dire, rencontre inopinée avec l'OVNI, abduction, examens médicaux, restitution du témoin à son milieu naturel et amnésie. Et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, l'abduction multiple est un élément qui vient renforcer l'idée que les quatre hommes ont bien été enlevés, grâce à la cohérence de leur témoignage. Mais par qui? Par quoi? Si l'on s'en réfère à leur témoignage sous hypnose, par des extraterrestres de type gris que l'on rencontre dans la quasi-totalité de ces affaires. D'où ces questions. Mais que veulent ces créatures et pourquoi pratiquer ces douloureux examens médicaux? Que cherche-t-on à nous faire comprendre? Ces questions resteront pour l'instant sans réponse, et d'ailleurs moi personnellement je n'en ai pas, jusqu'au jour où peut-être, et proche, où tout deviendra limpide et clair, mais cette affaire est toujours considérée comme inexplicable et classifiée. On fait une pause musicale.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens. And I wonder, isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see. Just a yellow lemon tree.
Eh oui, eh oui, chers auditeurs, vous êtes bien sur CFM Radio, le pays, le rock et l'info. 90.2, évidemment. Vous écoutez au plus profond des ondes. Deuxième histoire. Alors, c'est une histoire écrite par Roald Dahl. Elle s'intitule « Venez ». Il était minuit quand je rentrais chez moi en voiture. Les fenêtres de la chambre de Harry donnaient sur le côté du bungalow et, de crainte qu'un faisceau lumineux le réveille, je baissais les phares en arrivant au portail. Mais, en remontant l'allée, je vis sa fenêtre éclairée. Harry était encore éveillé, à moins qu'il ne se fût assoupi en lisant. Je rangeai ma voiture, montai les 5 marches de la véranda, en les comptant une à une dans le noir pour ne pas buter au sommet. Traversa la véranda, je poussai les portes en toile métallique du bungalow. Dans le hall, j'allumai, me dirigeai vers la porte de Harry et l'entrouvris sans bruit pour jeter un coup d'œil dans sa chambre. Harry était allongé sur son lit. Bien qu'éveillé, il ne fit pas un mouvement, ne tournant même pas la tête vers moi, mais je l'entendis murmurer « Timbert, Timbert, viens ici ». Il parlait bas, en détachant chaque syllabe. Ouvrant la porte, je traversai vivement la pièce. « Arrête, attends un instant, Timbert ». Il articulait avec effort et je l'entendais à peine. « Harry, qu'est-ce qu'il y a ?»« Chut » souffla-t-il. « Chut ! Pour l'amour du ciel, ne fais pas ce bruit. Enlève tes chaussures avant d'approcher, je t'en supplie, Timbert. Fais ce que je te dis. » Il me rappela ce pauvre George Barlin le jour où, adossé à un moteur d'avion, il avait reçu une décharge en plein ventre. Les 2 mains appuyées sur la plaie, il avait vomi des injures contre le pilote allemand d'une voix basse, tendu, rock, comme Harry en ce moment. « Vite, Timbert, mais enlève d'abord tes chaussures. » Je ne comprenais rien à cette insistance, mais s'il était aussi malade qu'il en avait l'air, mieux valait ne pas le contrarier. Je me baissai donc, retirai mes souliers, et les laissant au milieu de la pièce, m'approchai du lit. « Attention, ne touche pas le lit. Pour l'amour du ciel, ne touche pas le lit. » Il continuait de parler comme s'il avait une blessure au ventre. Aux 3/4 enveloppé par le drap, vêtu d'un pyjama rayé bleu, marron et blanc, il transpirait à grosses gouttes. La nuit était chaude. Je transpirais aussi, mais pas comme Harry. Son visage ruisselant avait trempé l'oreiller autour de sa tête. Je pensais, c'est une forte crise de paludisme. « Harry, qu'est-ce qu'il y a ?»« Un krait, » murmura-t-il. « Un krait, mon Dieu !»« Mais où t'a-t-il piqué ?» Je précise que le krait est un petit serpent de la famille des cobras. « Tais-toi, » souffla-t-il. « Écoute, Harry, » je me penchai pour toucher son épaule. « Il faut faire vite, dis-moi où il t'a piqué. » Il ne bougea pas, raide tendu comme en proie à une violente douleur. « Je n'ai pas été piqué, » dit-il à voix basse. « Pas encore, il est là, sur mon ventre, il dort. » Je reculai malgré moi et regardai le ventre de Harry. Le drap formait de nombreux replis, il était difficile de voir s'il cachait quelque chose. « Tu ne vas pas prétendre sérieusement qu'il y a un krait sur ton ventre en ce moment ?»«
Je te le jure. »
« Mais comment est-ce possible ?» Question stupide, car Harry ne plaisantait pas. C'était visible. Il fallait insister, au contraire, pour qu'il se tienne tranquille.
« Je lisais, » dit Harry à voix basse, détachant les syllabes, pour ne pas faire bouger les muscles de son ventre. « Couché, je lisais. Soudain, j'ai senti quelque chose qui remuait sur ma poitrine. Derrière mon livre, une sorte de chatouillement. » J'ai jeté un coup d'œil, un petit serpent rampait sur mon pyjama, tout petit, à peine 25 centimètres. Je savais qu'il fallait pas bouger. De toute façon, n'aurais pas pu le surveiller pendant qu'il allait passer par-dessus le drap.
Harry se tut, ses yeux descendirent le long de son corps et s'opposèrent sur le drap qui couvrait son ventre, évidemment. Il s'assurait que son murmure n'avait pas dérangé l'ennemi caché. Le drap faisait un repli. Il parlait plus lentement et si bas que je devais me pencher vers lui pour l'entendre.
« Tu vois, il y est encore. Il s'est glissé là-dedans. Je l'ai senti ramper sur mon ventre à travers le pyjama. Au bout d'un moment, il n'a plus bougé. Tranquille, bien chaud probablement, endormi. Je t'attendais. »
Il leva les yeux vers moi.
« Depuis combien de temps ?»«
Des heures, »
chuchota-t-il, « des heures qui n'ont paru drôlement longues. Je n'en peux plus, j'ai envie de tousser. » Son histoire n'avait rien d'invraisemblable et ne m'étonna pas. Les Kreitz, qui aiment la chaleur, rôdent souvent autour des habitations. Leur piqûre doit être traitée instantanément, sinon... sinon la mort est foudroyante. On déplore chaque année au Bengale de nombreux accidents mortels dus aux Kreitz. Je comprends, mon pauvre Harry. Je chuchotais moi aussi. Ne bouge pas et surtout ne parle pas si ce n'est pas absolument nécessaire. Les Kreitz attaquent seulement lorsqu'ils ont peur, tu le sais. Nous allons vite trouver le moyen d'arranger ça. Je quittai la chambre en chaussettes sans faire de bruit, pris un petit couteau bien effilé à la cuisine, le mis dans ma poche, prêt à m'en servir en cas de nécessité. Si par malheur Harry bougeait ou toussait, le reptile prenant peur pourrait le mordre. Il faudrait alors tailler des plaies, essayer de sucer le venin. Je revins dans la chambre et m'approchai de Harry, toujours raidi, immobile et suant sang et eau. Les yeux fixés sur moi, il se demandait visiblement ce que j'étais allé faire. Je me creusais la tête pour trouver quelque chose. Au bout d'un moment, mettant la bouche contre son oreille, je dis « Harry, je pense que la meilleure solution serait de replier le drap tout doucement pour voir ce qui se passe là-dessous. Je suis sûr d'y arriver sans réveiller le Kreitz. » « Ne sois pas idiot. » Il parlait si bas, si doucement, avec tant de précaution que sa voix était sans expression. Seul le regard et les coins de la bouche vivaient. « Pourquoi ?»« Tu ne vois pas qu'une lumière subite lui ferait peur, non ? Là-dessous, il fait sombre. » « Et si je rabattais le drap d'un seul coup et te débarrassais du serpent avant qu'il n'ait eu le temps de mordre ?»« Pourquoi n'appelles-tu pas un docteur ?» dit Harry. Et le regard dont il me gratifia me fit comprendre que j'aurais dû y penser moi-même. Un docteur? Ben oui, tu as raison. Je vais appeler Ganderbaï. Je sortis dans le hall, sur la pointe des pieds, chercher le numéro de Ganderbaï dans l'annuaire, puis le récepteur écrit à l'opérateur de faire vite. Docteur Ganderbaï, ici Timber Woods, l'appareil. Allô, monsieur Woods? Comment? Pas encore couché? Docteur, pouvez-vous venir tout de suite en apportant du sérum pour une piqûre de Kreitz? Qui a été piqué? La question lancée d'une voix stridente éclata dans mon oreille. Personne encore au docteur, mais un serpent s'est glissé dans le lit de Harry Pop et dort lové sur son ventre. Au bout du fil, il y eut une imperceptible silence. Puis le docteur parla sans violence cette fois, mais au contraire avec lenteur et précision. Insistez pour qu'il y reste tranquille. Il ne doit ni bouger ni parler, vous avez compris? Mais oui, je viens tout de suite. Il raccrocha. Je retournai auprès de Harry, qui m'interrogea du regard. Ganderbaï arrive. Il dit que tu ne dois pas bouger. Et qu'est-ce qu'il s'imagine que je fais, bon Dieu? Écoute, Harry, il a dit aussi qu'il ne fallait plus parler. Alors boucle-la.
Lorsqu'il prononça ces mots, je m'aperçus qu'un muscle se contractait au coin de ses lèvres. Ce tic nerveux dura quelques secondes, même après qu'il eut cessé de parler. Je pris mon mouchoir et avec précaution essuyai la sueur qui ruisselait sur sa figure et son cou. Sous mon mouchoir, je sentais le muscle se crisper. J'allai à la cuisine sur la pointe des pieds, pris de la glace dans le bas du réfrigérateur... et l'écraser roulé dans une serviette. Ce tic de la bouche ne me plaisait pas du tout, ni cette manière de s'exprimer. Je revins dans la chambre avec la glace et la mis sur le front de Harry. C'est pour te rafraîchir. Il tourna les yeux vers moi, retint sa respiration, et siffla entre ses dents.
« Enlève-moi ça, idiot, tu vas me faire tousser !»
Au coin de sa bouche, le muscle se remit à tressaillir. La lumière des phares éclaira la fenêtre et la voiture de Ganderbaï vira devant le bungalow. J'allai à sa rencontre, le paquet de glace à la main. « Comment va-t-il ? » demanda le docteur sans s'arrêter pour entendre ma réponse. Il grimpa l'escalier, 4 à 4, poussa les portes en toile métallique, entra dans le hall. « Où est-il ? Dans quelle pièce ?» Il posa sa serviette sur une chaise et me suivit dans la chambre de Harry. Chaussé de souples pantoufles, il se mouvait sans bruit, délicatement, prudemment, comme un chat. Du coin de l'œil, Harry l'observait. Ganderbaï s'approcha du lit, le regarda, lui sourit pour le rassurer, lui faire comprendre que ce n'était pas grave.
Il n'avait plus besoin de s'en faire. Le docteur Ganderbaï le tirerait de ce mauvais pas. Ganderbaï retourna dans l'entrée et je le suivis. « On va lui faire une injection de sérum, dit-il, en ouvrant sa trousse pour préparer le nécessaire. Intraveineuse, bien entendu, mais il faut faire très attention. Il ne doit pas broncher sous la piqûre. » Après avoir stérilisé la seringue à la cuisine, il a pris d'une main de l'autre un petit flacon dont il perça la capsule de caoutchouc, puis tira sur le piston, il transvasa le liquide jaune pâle qu'il contenait dans la seringue, qu'il me tendit ensuite. « Tenez-moi ça jusqu'à ce que j'en ai besoin. » Il ramassa sa trousse et nous retournâmes dans la chambre. Grand ouvert, les yeux de Harry étaient devenus très brillants. Ganderbaï se pencha avec d'infinies précautions, comme un homme qui manie une dentelle précieuse, et parvint à retrousser la manche du pyjama en l'enroulant au-dessus du coude, sans bouger le bras de Harry. Pendant cette opération, il se tenait à bonne distance du lit. Il murmura alors à l'oreille de Harry « Je vais vous faire une piqûre intraveineuse, du sérum. Ce n'est rien, mais il ne faut pas bouger. Ne contractez pas les muscles de votre abdomen. Détendez-vous. » Harry jeta un coup d'œil à la seringue. Ganderbaï tira de sa trousse un tuyau de caoutchouc rouge, le fit glisser doucement sous le bras de Harry, l'enroula autour du biceps et fit une solide ligature. Puis il nettoya une petite surface de peau et de l'alcool, me tendit le tampon humide et prit la seringue que je tenais. Il éleva vers la lumière, loucha sur ses chiffres gradués, et d'un léger coup de piston fit rejaillir quelques gouttes de liquide jaune. Immobile, près de lui, je fixais Harry qui lui fixait le médecin. Harry suait toujours. Son visage brillait comme s'il était enduit d'une épaisse couche de crème grasse qui se répandrait sur l'oreiller en fondant. Gonflé par le garrot, la veine bleue saillait à la saignée du coude de Harry. Je vis la seringue s'en approcher doucement. Ganderbaï, tenant l'aiguille presque à plat, la glissa de biais sous la peau avec douceur et fermeté. L'aiguille pénétra dans la veine comme dans du fromage. Harry, qui regardait le plafond, ferma les yeux, les rouvrit, mais ne broncha pas. L'opération terminée, Ganderbaï se pencha et, mettant sa bouche contre l'oreille de Harry, murmura « Maintenant, vous ne craignez plus rien, même si vous êtes piqué, mais ne bougez pas. » « Je vous en conjure, ne bougez pas, je reviens dans un instant. » Ramassant sa trousse, il sortit dans le hall et je le suivis. « Est-il à l'abri du danger maintenant » demandai-je. « Non, pas du tout. » Le petit médecin hindou, debout au milieu du hall, se frottait du doigt la lèvre inférieure et semblait réfléchir. « Mais le sérum doit offrir tout de même une certaine garantie, non ?» Sans me répondre, il se dirigea vers les portes de toile métallique qui donnaient vers la véranda. Je crus qu'il allait sortir, mais il s'arrêta sur le seuil et resta là, debout, les yeux perdus dans la nuit. « Mais enfin, ce sérum n'est-il pas efficace ?» demandai-je. « Malheureusement, non, répondit le docteur sans se retourner. « Il peut le sauver en cas de morsure, mais ce n'est pas certain. Il faut trouver autre chose. Mais quoi ? » « Ne pourrions-nous retirer vivement le drap et débarrasser Harry du reptile avant qu'il n'ait le temps de réagir. « Ah, aucun prix. Nous n'avons pas le droit de prendre un tel risque. » Le ton était brusque et la voix plus aiguë que de coutume. « Mais on ne peut pas le laisser dans cette situation. Il devient nerveux et cela m'inquiète. « je vous en prie, » s'écria le docteur en levant les bras au ciel. « Pas si vite de grâce. Ce n'est pas une affaire dans laquelle on puisse se lancer tête baissée. » S'épongea le front avec un mouchoir, puis resta planté là, les sourcils froncés, se mordillant la lèvre. « Il y aurait peut-être un moyen d'en venir à bout, dit-il. « Savez-vous ce que nous devrions faire ? Anesthésier le reptile. L'anesthésier pendant qu'il dort. » L'idée me parut extraordinaire, et j'en félicitais le docteur. Oh, ce n'est pas sans danger, continua-t-il, car le serpent est un animal à sang-froid et moins sensible à l'anesthésie que les autres animaux. Mais nous n'avons pas le choix, voyons. Il faut employer de l'éther ou du chloroforme. Il parlait lentement tout en réfléchissant. Lequel des deux allons-nous employer ? Le chloroforme, dit-il, se décidant brusquement. Du chloroforme ordinaire. C'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, faisons vite. Il me saisit par le bras et me poussa vers la véranda. Sautez dans votre voiture. Allez jusque chez moi pendant ce temps, je vais téléphoner à mon boy pour le réveiller. Quand vous arriverez, il vous mènera à mon armoire à pharmacie. Tenez, voici les clés. Vous verrez le flacon de chloroforme. Il porte une étiquette orange et le nom du produit est inscrit dessus. Il vaut mieux que je reste ici au cas où il arriverait quelque chose. Mais dépêchez-vous. Non, non, vous n'avez pas besoin de vos souliers. Je roulais à toute allure et en moins d'un quart d'heure, j'étais de retour avec le chloroforme. Canderbay vint à ma rencontre dans le hall. « Vous l'avez ? » s'écria-t-il. « Bon, bon, je viens de l'expliquer ce que nous comptons faire, mais il faut faire vite, la situation n'est pas drôle pour lui, et je crains qu'il ne bouge. » Le docteur retourna dans la chambre, où je le suivis, tenant à deux mains le flacon. Toujours couché dans la même position, Harry continuait à transpirer, et son visage ruisselant était ciré. Il me regarda, et je lui souris en signe d'encouragement. Mais voyant qu'il ne comprenait pas, je levai le pouce. Alors rassuré, il ferma les yeux. Ganderbay accroupi près de lui. Le tuyau de caoutchouc qui avait servi de garrot à ses pieds fixait un entonnoir de papier à l'une de ses extrémités. Le médecin hindou commença alors à tirer sur la partie du drap replié sous le matelas. Il se tenait à bonne distance du lit, à la hauteur du ventre de Harry. Ses doigts tiraient le bord du drap avec de telles précautions qu'on ne voyait bouger ni ses mains ni l'étoffe. Il réussit enfin à dégager le drap, glissa dans l'ouverture le bout du tuyau et le poussa peu à peu vers le corps de Harry. Combien de temps dura l'opération ? 30-40 minutes. Je l'ignore. Le tuyau pénétrait sous le drap. Je le savais parce que sa partie visible diminuait insensiblement, mais à aucun moment je ne m'aperçus qu'il bougeait. Le Krait ne pouvait percevoir le moindre frémissement. Ganderbay transpirait maintenant à son tour. De grosses perles de sueur tremblaient sur son front et au-dessus de ses lèvres. Ses gestes pourtant demeuraient fermes et tranquilles. Je remarquai qu'au lieu de regarder ses mains, il tenait les yeux fixés sur la partie du drap qui recouvrait le ventre de Harry. Sans lever la tête, il fit un geste vers le chloroforme. J'enlevai le bouchon de verre et lui tendis le flacon, m'assurant avant de le lâcher qu'il le tenait bien. D'un mouvement de tête, il me fit signe d'approcher et me chuchota. « Dites-lui que je vais imprégner le matelas de chloroforme. Il éprouvera une vive sensation de froid. Qu'il s'y prépare de façon à ne pas sursauter. Il ne faut pas qu'il bouge. » Je me penchai à l'oreille de Harry et lui transmis le message. « Dis-lui de se dépêcher. Il commence tout de suite. Tu vas sentir un grand froid, Harry. Il faut t'y préparer. Mais bon Dieu, faites vite, faites vite !»
Pour la première fois, Harry avait légèrement haussé le ton. Canderbay releva brusquement la tête, le dévisagea pendant quelques instants, puis se remit au travail. Il versa quelques gouttes de chloroforme dans l'entonnoir, puis attendit que le liquide se soit écoulé dans le tube. Il recommença à verser, attendit de nouveau. L'odeur écœurante du chloroforme se répandit dans la chambre, m'évoquant de vagues et déplaisants souvenirs. Infirmière en blouse blanche et chirurgien blanc dans une salle blanche autour d'une longue table blanche. Canderbay versait maintenant le liquide d'une manière continue. Je voyais les lourdes vapeurs du chloroforme s'enrouler en volute comme une fumée au-dessus de l'entonnoir. Le docteur s'arrêta, vérifia à la lumière le contenu du flacon, versa le reste dans le tuyau et me tendit le verre vide. Il retira lentement le tube de caoutchouc, le dégagea du drap et se releva. L'effort qu'il venait d'accomplir semblait avoir épuisé le docteur. Je me rappelle que lorsqu'il se retourna vers moi pour me parler, sa voix me parut atone et très basse. « Nous accorderons encore un quart d'heure au reptile, dit-il, pour être tout à fait sûr qu'il est endormi. Ce sera plus prudent. »«
Mais bon Dieu, pourquoi ne pas vous en assurer tout de suite ?» Harry avait de nouveau élevé la voix.
Canderbay sursauta, sa petite face brune brusquement contractée par la colère, et fixa Harry de ses yeux de jet. Le muscle au coin de la bouche de Harry se remit à tressaillir. Je pris mon mouchoir, épongeai son visage, essuyant doucement son front pour le réconforter dans cette dernière épreuve. nous nous tenions derrière le lit. Canderby continue à fixer Harry avec une curieuse et surprenante intensité. On lui dit que le petit hindou concentrait toutes ses forces pour obliger Harry à se tenir tranquille. Silencieux, immobile, il ne quittait pas son patient du regard. J'avais l'impression qu'il lui répétait sans cesse « Il faut m'écouter ». « Vous n'allez pas tout gâcher maintenant, restez tranquille. Vous m'entendez ?» Harry, tendu, ruisselant, la bouche agitée par son tic, fermait les yeux, les rouvrait, me regardait, regardait le plafond, comme s'il voulait éviter à tout prix le regard du docteur. Cependant, celui-ci le tenait sous son emprise. L'odeur nauséabonde du chloroforme m'écœurait, mais je ne pouvais quitter la chambre. J'éprouvais un sentiment étrange, comme si quelqu'un était en train de gonfler un immense ballon, un ballon qui allait éclater d'un instant à l'autre. Je le savais, mais j'étais incapable d'en détourner les yeux. Enfin, Canderby se retourna et me fit un signe de tête pour me faire comprendre que le moment d'agir était venu. « Passez de l'autre côté du lit, me dit-il, nous allons prendre chacun une extrémité du drap pour le replier vers les pieds, d'un mouvement très lent, mais attention, allez-y tout doucement. » Je recommandais à Harry de ne pas bouger et contournais le lit faisant face à Canderby. Après avoir soulevé le drap pour éviter qu'il n'effleure le corps de Harry, nous commençâmes à le rabattre très lentement, nous tenant tous deux à l'écart du lit, mais penchés en avant pour essayer de jeter un coup d'œil sur le drap. L'odeur du chloroforme était insupportable. Je me souviens encore de mes efforts désespérés pour retenir ma respiration et empêcher cette horreur de pénétrer dans mes poumons. Peu à peu, la poitrine de Harry, ou plutôt la veste de son pyjama rayé, se trouva entièrement découverte. Puis je vis le noçage du cordon qui retenait son pantalon, et un peu plus bas, sur la braguette, un joli petit bouton de nacre. Moi qui n'avais jamais eu de bouton, même ordinaire, sur un pantalon de pyjama, je fus frappé de tant de luxe. Ce Harry tout de même, pensais-je, quel raffiné. Aux heures de grande tension morale, nous sommes parfois la proie de considérations frivoles. Je me rappelle encore parfaitement toutes les réflexions nées de la coquetterie de Harry et de ce bouton de nacre. À part ce bouton, il n'y avait absolument rien sur le ventre de Harry. Nous repliâmes le drap un peu plus rapidement, découvrant les jambes et les pieds. Le drap traînait par terre au pied du lit. « Ne bougez pas, » dit Canderby, « ne bougez pas, monsieur Pope. » Et il se mit à regarder attentivement tout le long du corps de Harry et sous ses jambes. « Il faut faire attention, » ajouta-t-il. « Il peut s'être caché. Il s'est peut-être faufilé dans une jambe de votre pyjama. » À ces mots, soulevant vivement la tête, Harry se mit à considérer ses jambes l'une après l'autre. Puis se leva d'un bond sur son lit et les agita frénétiquement. Une même pensée nous traversa l'esprit. Il vient d'être piqué. Le docteur cherchait déjà dans sa trousse le garrot et le scalpel. Quand Harry, cessant de gambader, s'arrêta brusquement, regarda le matelas sous ses pieds et cria « Il n'est pas là !» Canderby se redressa et à son tour regarda un moment le matelas puis leva les yeux sur Harry. Son patient n'avait pas été piqué et ne le serait pas. Il n'allait pas mourir et tout était pour le mieux. Mais chose curieuse, cette constatation ne parut réjouir personne. « Monsieur Pope, êtes-vous absolument certaine d'avoir vu ce Krait ?» Canderby prononça ces mots d'un ton sarcastique qui ne lui était pas habituel. « Vous n'auriez pas rêvé par hasard, monsieur Pope ?» À la façon dont il regardait Harry, il était visible que l'ironie ne reflétait rien d'autre que le besoin de se détendre après une violente tension. Debout sur son lit, dans son pyjama rayé, Harry lança au docteur un regard furieux et rouge de colère hurla. « Alors, je suis un menteur ?» Canderby ne répondit pas. Toujours debout sur son lit, Harry fit un pas en avant, les yeux étincelants. « Espèce d'infecte vermine, sale petit hindou !»« Harry, tais-toi » criai-je. « Sale noir, vous n'êtes qu'un sale noir !»« Harry » criai-je. « Harry, assez !» J'essayai vainement de le faire taire. C'était affreux de l'entendre vomir de telles horreurs. Canderby quitta la pièce comme s'il n'avait rien entendu. Je le suivis et entourant ses épaules de mon bras, l'accompagnai sur la véranda. Il ne faut pas en vouloir à Harry, cette histoire l'a bouleversé, il ne sait plus ce qu'il dit. Ensemble, nous descendîmes les marches et, traversant l'allée, gagnâmes dans l'obscurité l'endroit où était garée sa vieille Maurice. Il ouvrit la portière et s'installa au volant. « Vous avez été absolument magnifique, dis-je, et je vous remercie pour beaucoup d'être venu. » « Il a surtout besoin de prendre des vacances, » dit le docteur d'une voix tranquille, sans me regarder. Puis il mit le moteur en marche et disparut. Merci pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres histoires qui vous combleront en soirée. Bye bye. Et maintenant, un peu de musique.